RFI 7h30 à Paris et Kigali 6h30 à Kinshasa. Bonjour Vincent Dublanche.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
Kigali y voit un échec de la CEAC à faire respecter ses propres règles. Le Rwanda en tire les conséquences.
Et claque la porte, Julien, de l'organisation sous-régionale qui a choisi de différer hier la présidence tournante qui devait revenir au Rwanda. Et pour cause d'opposition de la RDC et du Burundi, on vous explique. Le président Tshisekedi en RDC qui promet d'agir contre la criminalité qui se joue de plus en plus au grand jour dans la capitale congolaise Kinshasa, où nous sommes dans un instant. L'appel du bloc fédéral, organisation d'opposition à N'Djamena au Tchad, contre la situation politique. Le pouvoir muselle les voix dissidentes, nous dira le professeur Banyara Yanana. Nous serons également au Mali où l'armée quitte le camp de Boulkessi qui a subi deux attaques la semaine dernière. Et puis au Botswana, la production de diamants ne va pas de mieux en mieux, elle va au contraire de plus en plus mal. Le géant De Beers et le gouvernement de Gaborone prévoient une nouvelle baisse de la production. Le Rwanda dénonce donc un échec et le pays quitte l'organisation, la CEAC, organisation sous-régionale de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui tenait hier son 26e sommet ordinaire au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'était à Malabo, en Guinée équatoriale, pays qui occupait la présidence tournante l'année qui vient de se terminer et qui va continuer en fait à le faire pendant les prochains mois. Et non pas le Rwanda, comme cela était prévu normalement. Tout cela sur fond de tensions, donc, avec la République démocratique du Congo et le Burundi au sein de l'organisation. Amélie Tullet.
Le Rwanda proteste ainsi contre la décision prise ce samedi à Malabo. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a en effet choisi de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de l'organisation par la Guinée équatoriale et donc par le président Obiang Nguema. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence tournante au Rwanda, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. En réaction, Kigali déclare, je cite, « déplorer l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres ». Fin de citation. Selon un commissaire cité par l'agence France-Presse, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEAC et pointe, je cite, l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles.
Et lors de ce sommet à Malabo, la CEAC a décidé également de lancer la zone de libre-échange de la communauté centro-africaine. Ce sera le 30 août prochain. L'actualité en Guinée équatoriale, deux ressortissants sud-africains graciés par le président Obiang Nguema à l'occasion de son 83e anniversaire. Ils avaient été condamnés tous les deux à 12 ans de prison pour trafic de drogue. Les deux ingénieurs travaillaient sur une plateforme pétrolière. Ils avaient été arrêtés en février 2023 à Malabo. Ils s'apprêtaient alors à rentrer en Afrique du Sud. Leur emprisonnement a fait beaucoup réagir en Afrique du Sud. Leur famille s'est mobilisée. Il faut dire que leur arrestation était intervenue dans la foulée de la saisie en Afrique du Sud, dans la ville du Cap, par la justice de plusieurs biens du vice-président équato-guinéen et fils aîné du chef de l'État. En République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, la recrudescence des braquages à main armée dans la capitale Kinshasa inquiète jusqu'au plus haut niveau de l'État. Le président Tshisekedi a évoqué le sujet durant le Conseil des ministres. C'était vendredi, le chef de l'État qui appelle à la mobilisation des services de sécurité pour tenter d'endiguer ce phénomène qui fait peur aux opérateurs économiques et aux habitants. Hier encore, Pascal Moulégois, un fait divers a marqué les Quinois.
Samedi vers 13h, un pick-up transportant un ressortissant chinois et son chauffeur quittaient une banque par les boulevards Lumumba, Kinshasa. À proximité d'une concession industrielle, trois hommes armés à mouton ont braqué les véhicules et tiré sur les conducteurs congolais. La scène captée par la vidéosurveillance a été partagée sur les réseaux sociaux, alimentant l'inquiétude face à l'insécurité croissante. Quelques jours plus tôt, à 1 kilomètre de là, une quinzaine de bandits a attaqué en pleine journée une chambre froide vendant des produits vivriers dans la commune de Lemba. Les braquages deviennent quasi hebdomadaires à Kinshasa. Les auteurs, souvent en moto, agissent au vu au sud de la population sans crainte, filmés parfois par des témoins. Face à cette recrudescence, le président Félix Tshisekedi appelait à une mobilisation générale des forces de sécurité pour une riposte, je cite, vigoureuse, coordonnée et durable. Parmi les mesures annoncées, plus de patrouilles, une surveillance accrue dans les zones sensibles, un renforcement visible des effectifs policiers et militaires dans les quartiers à risque, et zone commerciale. Pascal Mouligua, Kinshasa, RFI.
Il est 6h35 à Kin, comme à N'Djamena, au Tchad, lors d'un point de presse ce samedi, le Bloc fédéral a lancé un appel pour, je cite, redynamiser la démocratie. Cette alliance de partis politiques d'opposition tchadien estime que les violations des droits humains se multiplient, que le pouvoir également muselle toutes les voix dissidentes. Écoutez le professeur Banyara Yanana, il est le porte-parole du Bloc fédéral.
C'est un système de terreur générale, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Plus rien ne marche. Et on est en droit de se demander si on est encore dans un système démocratique. Cette démocratie est une fausse démocratie, même si c'est devenu leur slogan depuis leur arrivée au pouvoir. En tout cas, plus personne n'a le droit à la parole. La libre circulation des citoyens n'existe pas, tout est contrôlé. Les appels sont contrôlés et il y a l'arbitraire qui règne. Il faut continuer à parler, il faut continuer à dire ce qu'il faut dire au pouvoir. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir sur la base d'un programme et ce programme n'est plus respecté. Nous estimons qu'il est temps qu'on essaie d'agir parce que les gens ne sont pas du tout dans un état de droit comme on dit. On subit et on continue à subir jusqu'à quand et pendant combien de temps.
Le professeur Banyara Yanana, porte-parole du Bloc fédéral, interrogé par Guillaume Thibault. Et vendredi, lors d'un discours devant les responsables religieux, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a appelé la population à rester soudée. Il a menacé tous ceux qui chercheraient à semer la division. Un mot du Liberia où l'ancien président de la Chambre des représentants est en détention au siège de la police. Jonathan Fonati Kofa, inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie de décembre dernier au congrès à Monrovia. Selon le chef de la police libérienne, il existerait des preuves solides contre lui, des développements profondément préoccupants. Réagit au contraire l'opposant et ancien président George Weah.
RFI à Bujumbura, 96.1 FM.
Un mot du Burundi, on revient sur ces élections dont on a parlé. C'était jeudi, élections locales et élections législatives, critiquées par l'opposition, satisfaites plutôt du gouvernement. On va parler de la couverture médiatique, une couverture un peu spéciale, puisque seuls les organes qui avaient accepté de travailler en mutualisant leurs antennes, d'une part, et en étant strictement contrôlés, d'autre part, ont pu travailler. Les explications d'Esdras Ndikoumana.
Ce sont 30 radios, 7 télévisions et 30 médias de la presse écrite ou en ligne qui se sont mis ensemble pour couvrir les élections de jeudi au Burundi. Et c'est une commission dirigée par un directeur général du ministère de la Communication qui a trié pour cela les présentateurs et les quelques 300 journalistes déployés sur le terrain pour couvrir le vote. Papier radio, reportage télé ou encore poste à publier sur les réseaux sociaux, chacun de ces journalistes devait soumettre sa production à une rédaction qui avait le droit de les censurer. Et il ne s'en est pas privé. Écoutez ce journaliste burundais, nous avons modifié sa voix pour préserver son anonymat.
Il y a des irrégularités qui ont été rapportées sur Tara. Il y a des journalistes indépendants qui avaient essayé de défendre l'équilibre de l'information, mais malheureusement, qui n'ont pas pu continuer parce que la rédaction centrale le bloquait directement. C'est-à-dire qu'on était sous contrôle, on signalait l'information, on est sur terrain, on a vu, on a constaté. Au niveau de la rédaction centrale, on bloquait.
Tout au long des opérations de vote, la synergie des médias du Burundi assurait que tout se passait bien, mais ajoute-t-il...
Ça ne correspond pas à ce qui a été vu sur terrain.
Bourrage d'urne, vote multiple ou encore des électeurs forcés de voter pour les candidats du parti au pouvoir, tout cela a été passé sous silence, confirment d'autres journalistes burundais qui se disent totalement muselés aujourd'hui.
L'armée malienne se retire d'un important camp militaire dans le centre du pays, le camp de la localité de Boulkessi. Hier, plus aucun soldat malien n'était sur les lieux. Le camp a subi, il faut dire, et on en a parlé sur RFI cette semaine, deux attaques djihadistes meurtrières, dont l'une à l'aide de drones. La correspondance régionale de Serge Daniel.
Plus un seul soldat malien dans le camp de l'armée à Boulkessi. Sur place, dans le camp désormais vide, des véhicules militaires abandonnés, quelques tentes et des vivres, très probablement le ravitaillement des hommes qui occupaient cette position. Importante caserne de l'armée dans le centre du Mali, le camp de Boulkessi s'étend sur plusieurs hectares. Il a été attaqué par les djihadistes à deux reprises en deux jours. Le premier raid a coûté la vie à de très nombreux soldats. Les assaillants fortement armés sont arrivés à pied, à moto et à bord de véhicules pick-up. Lors de la seconde attaque, d'après nos informations, les djihadistes ont utilisé des drones. Après leur départ, un convoi de l'armée s'est rendu sur les lieux. Objectif, aider les derniers rescapés à quitter le camp. Pour expliquer ce départ plutôt précipité des lieux, une source militaire locale récuse le terme d'abandon du camp et préfère parler de retrait stratégique. Les observateurs insistent de leur côté sur les pressions de plus en plus fortes des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, lié à Al-Qaïda. Ils ont multiplié depuis quelques semaines des attaques au centre, au nord et au sud du Mali contre des positions de l'armée.
En Tunisie, des associations sans fonds. La société civile s'inquiète des mesures financières contre certains acteurs du secteur. Comptes bancaires bloqués sur fond d'enquête de blanchiment d'argent. L'association de défense des droits des LGBTQA+, par exemple, Maoujoudine, annonce devoir fermer ses locaux faute de pouvoir payer son loyer à cause de ces blocages bancaires. Pour un membre chargé du projet à Avocats sans frontières qui a souhaité rester anonyme, ce genre de blocage financier est une manière de mettre au pas.
D'abord, on vise les associations qui opèrent dans le domaine de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme. Donc, ceux-là sont les ennemis numéro un. Les plus faciles à abattre ont été celles qui opèrent autour du sujet de la migration. Il y a une opinion publique qui a été travaillée de la part des autorités pour présenter la question de la migration comme un complot visant à changer la composition démographique du pays, qui a donné suite à une vague raciste dans le pays. Et donc ces organisations aujourd'hui ont été pointées du doigt et ont été accusées de tous les maux. On voit aujourd'hui le même mode opératoire s'opérer autour des associations qui œuvrent pour la cause des droits des personnes LGBT. Donc je pense qu'il y a un ordre de priorité qui correspond au discours officiel et qui reflète également les inquiétudes amplifiées, je dirais, par le populisme ambiant.
Propos recueillis par Lilia Blaise. On termine avec le Botswana qui réduit encore sa production de diamants. Dernière annonce il y a quelques jours du géant du diamant De Beers et du gouvernement de Gaborone. Le groupe d'Epswana, Nicolas Feldman, invoque le ralentissement de la demande mondiale de la pierre précieuse.
En avril déjà, le géant minier avait suspendu ses opérations dans deux de ses usines. Ce sont désormais les mines de Joaneng au sud et d'Orapa dans le centre qui sont mises à l'arrêt au moins pour 3 mois. Depswana veut ainsi faire des économies sur ses coûts de fonctionnement. L'objectif est de réduire la production de diamants de 16% pour la porter en 2025 à 15 millions de carats. Dans un communiqué, Depswana explique naviguer prudemment dans des conditions de marché difficiles. L'entreprise invoque d'une part la menace de nouveaux droits de douane venus des États-Unis, mais c'est surtout la baisse mondiale de la demande de diamants depuis 2 ans qui justifie ses choix. L'année dernière, le chiffre d'affaires du géant minier botswanais a chuté de 50%, un manque à gagner qui a des répercussions directes sur l'économie dans un pays où l'industrie du diamant représente près d'un quart du PIB. Après une année 2024 dans le rouge, l'économie du Botswana devrait de nouveau se contracter cette année, selon les prévisions du FMI.
Les explications de Nicolas Feldman du service éco d'RF.